Chapitre 14. Sa reine avait presque autant de talent pour broder que pour peindre. Cela ne la dissuadait guère d'essayer. Même si elle s'échinait à pratiquer des activités dites « masculines », elle ressentait le besoin de prouver qu'elle pouvait être féminine et distinguée. Ce n'était pas sa faute si elle se montrait aussi peu douée. Elle brandit son tambour. Le tissu tendu sur le cercle en bois portait un motif censé représenter un sistrelin écarlate perché sur une branche, en train de chanter à gorge déployée. Hélas, comme elle l'avait dessiné elle-même, il n'était pas très bon. Ajouté à son incapacité à suivre ses propres lignes, le résultat évoquait une tomate écrasée plus qu'un oiseau.
« Très jolie, ma chère !» dit Échène.
Seule la reine, dans son incurable pétillance, pouvait émettre pareil compliment sans paraître sarcastique. La princesse soupira, laissa retomber son tambour sur son giron et prit du fil marron pour la branche.
« Ne vous en faites pas, sa reine !» dit Daora. « Domu donne à chacun des niveaux de talent différents, mais il récompense toujours la diligence. Continuez de vous entraîner et vous ne pourrez que vous améliorer. »
« Facile à dire pour vous, » regimba sa reine par-devers soi. Le tambour de Daora portait un tissu brodé à la perfection. Ce chef-d'œuvre montrait des volées d'oiseaux, minuscules mais détaillés, qui voltigeaient dans les branches d'un grand chêne. L'épouse de Kiin incarnait la vertu aristocratique. Daora ne marchait pas, elle glissait, et chacun de ses gestes se parait d'élégance et de grâce. Son maquillage frappant, des lèvres rubis, des yeux mystérieux, possédait toutefois une subtilité magistrale. Assez mûre pour qu'on apprécie sa dignité, et assez jeune pour qu'on loue sa beauté, elle aurait dû représenter ce que sa reine détestait chez la gent féminine. Mais Daora était aussi la femme la plus aimable et la plus intelligente de toute la cour. Après un instant de silence, Échène prit la parole, comme d'habitude. La reine paraissait redouter le silence, et elle ne cessait de parler ou de pousser les autres à le faire. Le reste du groupe semblait volontiers lui laisser choisir le sujet de la conversation, non que quiconque aurait essayé de prendre le contrôle d'une discussion avec Échène. Le cercle de brodeuses rassemblées par la reine comptait une dizaine de membres. Sa reine, qui au début fuyait ses réunions pour concentrer son attention sur le politique, avait compris que ces femmes jouaient un rôle primordial. Leurs potins et leurs cancans diffusaient des nouvelles qu'on n'aurait jamais évoquées dans un cadre plus formel. La princesse, qui devait y participer afin de rester bien informée, aurait juste préféré ne pas devoir révéler son inaptitude pour ce faire.
« J'ai ouï dire que Messire Varenne, le fils du baron de la plantation de Quillé, vient de vivre l'expérience religieuse la plus extrême, » dit Échène. « Je connaissais sa mère, une femme très convenable. Elle tricotait avec beaucoup d'adresse. L'an prochain, quand les tricots seront à nouveau de mise, je vais forcer Yadon à emporter. Il ne sied guère à un roi de paraître inconscient de la mode. Il a déjà les cheveux trop longs. »
Daora arrêta son fil. J'ai moi aussi entendu ces rumeurs à propos du jeune Varenne. Je trouve curieux qu'il se convertisse au chu d'Eret après des années de dévotion à la foi Koraï.
C'est la même religion de toute façon, dit Atara d'une voix distraite.
L'épouse du duc Tellery, petite, même pour une aréloise, arborait une crinière bouclée au beurne lui tombant sur les épaules. Ses vêtements et ses bijoux, sans conteste les plus riches de l'assemblée, témoignait de la munificence de son mari. Ces motifs de broderie détonnaient, eux, par leur conservatisme et leur manque d'imagination.
« N'allez jamais répéter cela en présence d'un prêtre !» lui rétorqua Céadène, l'épouse du comte Ahan,
la femme la plus robuste du cercle, dont la corpulence avoisinait celle de son mari.
« Allez en croire, le salut de votre âme dépend de ce que vous appelez Dieu, Domu ou Jadette !»
Tous deux présentent toutefois des différences notables, dit sa reine en s'efforçant de dissimuler sa broderie ratée à ses compagnes.
« Aux yeux d'un prêtre, certes !» répondit Atara avec un rire haut perché. « Mais la différence ne nous apparaît guère !»«
Bien entendu, après tout, nous ne sommes que de faibles femmes. » La princesse observa discrètement les réactions à son commentaire en riant sous cap. Les aréloises étaient peut-être moins soumises que leurs hommes se le figuraient. Échène rompit bientôt le silence une fois de plus.
Sa reine, comment les Théoises passent-elles leur temps ?
La jeune femme haussa un sourcil. Elle n'avait jamais entendu la reine poser une question aussi directe.
« Qu'est-ce à dire, votre majesté ? Que font-elles ? Sachez qu'on m'a rapporté divers faits. Sur le Théode, mais aussi sur le Fjorden, où l'hiver est si froid, paraît-il, que les arbres gèlent et éclatent. Un moyen facile de produire des copeaux de bois, j'imagine. Je me demande si on peut déclencher un tel phénomène. »
Sa reine sourit.
« Nous nous occupons, majesté. Certaines aiment broder, même si d'autres trouvent des activités différentes à effectuer. Lesquelles ? Voulut savoir Torena. D'ordinaire, la fille célibataire du comte Aan, même si la princesse avait du mal à croire qu'un couple aussi énorme que Séaden et son époux aient pu engendrer une progéniture aussi menue, restait muette au sein du cercle, assistant au débat avec une lueur dans le regard qui trahissait une intelligence tenue secrète.
Eh bien, les tribunaux royaux sont ouverts à tous, dit sa reine avec nonchalance, quand son cœur battait la chamade. C'était là l'occasion qu'elle attendait avec impatience.
« Vous alliez assister au jugement ?» demanda Torena, dont la voix fluette témoignait d'un intérêt croissant.
« Oui, souvent. Puis j'en discutais avec mes amis. »«
Et vous vous battiez à l'épée ?» lança la grosse Séaden, le regard brûlant.
La princesse, surprise, hésita. En levant la tête, elle vit que presque toutes l'observaient.
« Pourquoi me demander cela ?»« C'est ce qu'on dit des Théoises, ma chère !» lui déclara Daora, la seule qui travaillait encore à sa broderie.
« Oui !» ajouta Séaden. « Nous avons tout entendu raconter qu'elle s'entretue pour divertir les hommes !»
Sa reine haussa un sourcil. « On appelle cela de l'escrime, dame Séaden. Nous pratiquons ce sport pour notre plaisir et non pour celui de nos hommes. Et on ne s'entretue certes pas. On utilise une épée, mais mouchetée, et on porte une tenue rembourrée. Je n'ai jamais entendu parler d'une blessure plus grave qu'une foulure de la cheville.
« Mais c'est donc vrai ?»
souffla la minuscule Torena avec une excitation palpable.
« Vous utilisez des épées ?»«
Certaines d'entre nous, oui. Cela me plaisait beaucoup d'ailleurs. L'escrime était mon sport favori. » Les regards de ces femmes brillaient d'une soif de sang. On aurait cru des chiens enfermés dans un réduit pendant bien trop longtemps. La princesse, qui avait espéré les intéresser à la politique, les encourager à prendre une part plus active dans la gestion de leur pays, se rendit compte qu'elle avait adopté une approche par trop subtile. Il leur fallait quelque chose de plus pugnace.
« Je pourrais vous apprendre, si vous le souhaitez. »«
À nous battre ?»
rétorqua Atara, stupéfaite.
« Bien entendu. Ça n'a rien de très difficile. Mais s'il vous plaît, dame Atara, on parle de faire de l'escrime. » Même les hommes les plus compréhensifs éprouvent un certain malaise à l'idée que des femmes puissent se battre.
Eshen la dévisagea.
« Jamais nous ne...
Et pourquoi donc ?»«
Le souverain désapprouve l'usage des armes, ma chère, »
expliqua Daora. « Vous aurez sans doute remarqué qu'aucun de nos aristocrates ne porte l'épée. » Sa reine fronça les sourcils.
« Je comptais vous interroger à ce sujet. Yadon tient l'usage pour Rusto. » dit Eshen. « À ses yeux, se battre est une tâche de paysan. Or, il les a étudiés avec diligence. C'est un excellent dirigeant et, comme tel, il doit en savoir beaucoup sur bien des choses. Il peut vous dire quel temps il fait au Svorden en toute saison. Ses navires sont les plus solides et les plus rapides de toute la flotte marchande.
Aucun noble ne sait se battre ?» s'ébobit la princesse.
« À part Messire Eondel et peut-être Messire Chuden. »
Torena prit un air rêveur en prononçant ce dernier nom. Le jeune aristocrate noir était le chouchou des dames de la cour. De ses traits délicats et de ses manières impeccables, il charmait même les cœurs les plus fidèles.
« N'oubliez pas le prince Raoden !» dit Atara. « Il a demandé à Eoden de lui apprendre à se battre, rien que pour contrarier son père, je crois. Il adorait se comporter ainsi.
« Parfait !» dit sa reine. « Si aucun des hommes ne se bat, le roi Yadon ne trouvera rien à nous reprocher. »«
Comment cela ?»
s'enquit Torena.
« Ma foi, il considère cette activité comme indigne de lui. Dans ce cas, elle devrait nous convenir à merveille. Nous ne sommes que des femmes, n'est-ce pas ?»
Le sourire malicieux de la princesse gagna bientôt presque tous les visages alentour.
« Haché, où est-ce que j'ai bien pu mettre mon épée ?»
À genoux près de son lit, sa reine tâtonnait dessous.
« Votre épée, madame ? »
Tant pis, je la trouverai plus tard. Qu'as-tu découvert ?
Le Séon émit une pulsation, comme s'il se demandait dans quoi elle allait encore s'embarquer avant de répondre.
« Je crains de n'avoir pas grand-chose à signaler. Elantris est un sujet des plus délicats, madame, et je n'ai guère progressé. »
« Le moindre détail peut se révéler utile. »
Elle se tourna vers sa garde-robe. Ce soir-là, elle devait assister à un bal.
« Les habitants de Caë refusent d'évoquer la cité, madame. Leurs séons n'en savent pas beaucoup plus et ceux d'Elantris paraissent incapables de répondre à mes questions, privés de raison qu'ils sont. J'ai même tenté d'approcher les Elantriens eux-mêmes, mais les uns, les plus nombreux, semblaient me craindre et les autres n'ont fait que me réclamer à manger. Comme si je pouvais leur apporter de la nourriture. En fin de compte, j'ai obtenu les meilleures informations des soldats qui surveillent les murs de la cité.
J'ai entendu parler d'eux, dit sa reine, qui passait en revue ses vêtements. Ils sont réputés les plus aguerris du pays.
Ils aiment à le répéter, madame. Je doute que la plupart d'entre eux vaillent quoi que ce soit sur un champ de bataille, mais ils m'ont semblé redoutables aux cartes et à la boisson. Et leurs uniformes sont bien repassés.
Typique d'une garde honorifique. Elle mit de côté les habits sombres, avec un frisson à l'idée de s'attifer d'une autre robe asexuée et incolore. Même si elle respectait la mémoire de Raoden, elle ne pouvait plus porter de noir. Haché pendilla dans l'air à son commentaire.
Les soldats les plus aguerris ne font guère honneur à ce pays, madame, mais ce sont bien les meilleurs experts à propos d'Elantris.
Et qu'avait-il à en dire ?
Haché se rapprocha du placard et la regarda examiner les vêtements.
Pas grand-chose. On parle moins volontiers aux Séons qu'auparavant. Je me rappelle à peine d'un temps où on nous adorait. À présent, les Arélois se montrent réservés, presque craintifs.
Il vous associe à Elantris, dit sa reine avec un regard mélancolique vers les robes qu'elle avait apportées du Théode.
Je sais, madame. Pourtant, nous n'avons joué aucun rôle dans la chute de la cité. Il n'y a rien à craindre d'un Séon. Je voudrais que... Peu importe, cela n'a rien à voir. Malgré leur réticence, j'ai obtenu quelques informations. Les Elantriens ne perdent pas que l'apparence humaine, une fois affligée par le Shaod. Les gardes estiment que la personne oublie qui elle était, au point de ressembler à un animal. Cela paraît exact pour les Séons d'Elantris auxquels je me suis adressée.
Elle frissonna. Mais les Elantriens parlent? Certains t'ont réclamé de quoi manger.
En effet, ces pauvres hères n'avaient rien d'animaux. La plupart pleuraient ou marmonnaient. J'imagine qu'ils avaient perdu l'esprit.
Le Shaod affecte donc le mental en plus du physique?
Il semblerait, madame. Les gardes ont également évoqué plusieurs despotes qui gouvernent la cité. La nourriture est si rare que les Elantriens attaqueraient quiconque en possède.
Sa reine fronça les sourcils. Qui les nourrit?
Personne, à ma connaissance.
Mais comment font-ils pour survivre?
Je l'ignore, madame. Il se peut que la sauvagerie règne partout et que les forts profitent des faibles.
Aucune société ne pourrait perdurer de la sorte.
Je doute qu'ils aient une société, madame. Ils forment un troupeau de pauvres malheureux que votre Dieu semble avoir oublié. Et le reste du pays s'efforce de suivre son exemple.
Elle hocha la tête, pensive. Puis, d'un air déterminé, elle ôta sa robe noire pour fourrager parmi les vêtements au fond de son placard. Quelques minutes plus tard, elle se soumettait à l'avis d'Haché. « Qu'en penses-tu ? » Elle tournoya sur elle-même. Elle avait choisi une robe taillée dans une étoffe dorée, aux moirées presque métalliques, rehaussée de dentelles noires et dotée d'un col haut, très ouvert, plutôt masculin. Le matériau du col, un tissu raide, servait aussi pour les manchettes. Les manches étaient larges, bouffantes, tout comme la jupe qui, descendant jusqu'à terre, dissimulait les pieds. Ce genre de robe donnait un aspect royal. Même une princesse avait parfois besoin d'un pense-bête.
« Ce vêtement n'est pas noir, madame. »«
Mais cet accessoire l'est, » répliqua sa reine en désignant la longue cape qui, fixée au col et aux épaules avec un soin extrême, semblait naître des parures de dentelle.
Je doute fort que cette cape suffise à en faire un habit de veuve, madame. »
Il faudra que cela convienne, répliqua la jeune femme en mirant dans sa glace. Si je dois porter une autre des robes que la reine m'a fournie, c'est moi qu'il faudra bannir à Elantris pour avoir perdu la raison.
Vous estimez le bustier décent?
Quoi?
Il est assez décolleté, madame.
J'ai vu bien pis, même en Arellon.
Certes, madame, mais sur des femmes célibataires.
Sa reine sourit. Haché était quelqu'un de sensible, surtout quand il s'agissait d'elle. Je me dois de la porter au moins une fois. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Elle est arrivée du Duladel une semaine à peine avant notre départ.
À votre guise, madame.
Le Séon pulsa.
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez me voir essayer de découvrir?
As-tu visité les oubliettes?
Oui. Je suis navrée, madame, mais je n'y ai trouvé aucune alcôve renfermant un prince à demi mort de faim. Si Yadon a emprisonné son fils, il n'a pas été assez bête pour le faire dans son propre palais.
Mieux valait s'en assurer, soupira la jeune femme. Je ne pensais pas que tu trouverais quoi que ce soit. Il nous faudrait plutôt chercher l'assassin lui-même.
En effet, vous pourriez peut-être poser des questions à la reine. Si un intrus a bel et bien tué le prince, elle saura sans doute quelque chose.
J'ai essayé, mais Echen, il n'est pas difficile d'obtenir des informations auprès d'elle. Obtenir qu'elle s'en tienne au sujet initial, c'est une autre histoire. Qu'une telle femme ait épousé Yadon me laisse perplexe.
L'arrangement devait avoir une base financière plus que sociale, madame. L'essentiel des fonds qui lui ont permis de gouverner les premiers temps venait du père des chaînes.
Je comprends mieux. Sa reine sourit. Qu'est-ce que le roi pensait de ce marché désormais? Il avait reçu ses fonds, certes, mais il devait passer plusieurs décennies à écouter Echen bavasser. Cela pouvait expliquer pourquoi les femmes lui inspiraient un tel sentiment de frustration. Je doute que la reine sache quoi que ce soit à propos de Raoden, mais je vais persévérer. Haché pendilla.
Et pendant ce temps, que dois-je faire?
Elle hésita. Je m'interroge sur Kiin. Père n'en parle plus. Sais-tu si on n'a jamais déshérité mon oncle officiellement?
Non, je l'ignore. Dio pourrait être au courant. Il travaille auprès de votre père pour sa part.
Vois ce que tu peux apprendre. Ce qui s'est passé a pu laisser des traces en Arellon. Kiin est un des individus les plus influents de Kaé, après tout.
Entendu, madame. Autre chose?
Oui, elle plissa le nez. Déniche-moi quelqu'un pour me débarrasser de ces robes noires. Je n'en aurai plus besoin.
Bien sûr, madame, dit Haché d'un ton chagrin.
Sa reine jeta un coup d'œil par la fenêtre du carrosse vers la demeure des Tellerii. On racontait que le duc avait inondé la ville d'invitations au bal, et le nombre de voitures sur la route ce soir-là semblait devoir le confirmer. Des torches bordaient la voie, tandis que les jardins scintillaient d'une constellation de lanternes, de torches et d'étranges flammes colorées.
« Le duc n'a pas regardé à la dépense, » fit observer Chuden.
« Qu'est-ce qui produit ceci, monsieur le baron ?» demanda la princesse en désignant d'un coup de menton un des feux de couleur qui brûlait au sommet d'un poteau métallique.
« Des pierres spéciales importées du sud. »«
Des pierres qui brûlent ?»
Une sorte de charbon? Elle brûle plus vivement, répondit le jeune Jindoé. Et elle coûte très cher. Cela a dû demander une fortune à Tellerii.
Il fronça les sourcils.
Une véritable extravagance, même pour lui.
Sa reine se rappela une conversation dans la salle du trône. Lucal me l'a présenté comme dépensier, oui. Chuden opina.
Il est aussi bien plus intelligent qu'on ne le croit en général. Il se sépare volontiers de son argent, mais d'habitude sa générosité a un but.
Le baron semblait encore songeur quand le ratelage s'immobilisa, comme s'il tentait de discerner la nature exacte du but en question. Le manoir lui-même grouillait de monde. Des femmes en robes aux couleurs vives escortaient des hommes vêtus des longues redingotes à la mode. Le nombre d'invités dépassait à peine celui des serviteurs en blanc, qui s'activaient dans l'assistance à porter des plateaux de mets, de boissons et à changer les lanternes. Le Jindoé offrit son bras à sa reine pour descendre du carrosse, puis il la guida vers la salle de bal avec la démarche d'un homme habitué à négocier la foule. « Vous ne pouvez pas savoir combien je suis ravie que vous ayez proposé de m'accompagner, » dit-il. Un orchestre jouait à l'autre bout de la salle. Les couples virevoltaient sur la piste ou devisaient autour. Les mêmes pierres que dans le jardin brûlaient sur des balustrades ou des poteaux, baignant le tout de couleurs. Des chaînes de minuscules bougies s'enroulaient même autour de certains piliers, dispositifs qu'on devait sans doute regarnir toutes les demi-heures. « Pourquoi donc, messire ?» Elle contempla ce carrousel enivrant qui menaçait de subjuguer tous ses sens. En dépit de sa qualité de princesse royale, elle n'avait jamais vu autant de beauté et d'opulence. Shuden suivit son regard sans prendre garde à sa question. « On ne croirait pas que ce pays oscille au bord de l'abîme. » La remarque sonna comme un glas. Il y avait une raison à ce que sa reine n'ait jamais vu de spectacle aussi merveilleux. Vu le coût exorbitant, son père, monarque prudent, n'aurait jamais permis un tel gaspillage. « Mais il n'y a là rien de nouveau, n'est-ce pas ?» ajouta le jeune Jindoé. « Qui peut le moins se permettre de céder à ses caprices sera toujours le premier à dépenser ce qui lui reste. » « Vous êtes un sage, monsieur le baron ?»« Non, simplement un homme qui essaie de lever un coin du voile, » dit-il en la conduisant vers une galerie latérale où on servait des rafraîchissements. « Que vouliez-vous dire tout à l'heure ?»« Oh, je vous expliquais que vous alliez m'épargner bien des tribulations ce soir. »« Comment cela ?» demanda-t-elle en acceptant la coupe de vin qu'il lui tendait. Il sourit avant de boire une gorgée de sa propre boisson. « Il en est qui, pour une raison ou pour une autre, voient en moi un bon parti. La plupart d'entre elles, faute de savoir qui m'accompagne, se tiendront à l'écart pour tâcher de juger leur nouvelle rivale. J'aurai peut-être l'occasion de prendre du bon temps pour une fois. » Elle haussa un sourcil. « C'est à ce point ?»« Je dois souvent les chasser à coups de bâton, » répondit-il en lui offrant son bras. « On croirait presque que vous comptez rester célibataire. »« Au contraire, madame, » s'esclaffa-t-il. « Je vous jure que le mariage m'intéresse, dans l'idée, tout du moins. Quant à croiser chez Yadon mieux que des cervelles d'oiseaux propres à vous retourner l'estomac, c'est une autre paire de manches. Venez, si je ne me trompe, nous devrions pouvoir trouver un endroit beaucoup plus intéressant que cette salle. » Il la précéda parmi les invités. Malgré ses commentaires précédents, il se montrait courtois, voire cordial, envers les femmes qui se détachaient de la foule pour le saluer. Shuden semblait connaître chaque personne par son nom, l'avantage d'une bonne éducation ou d'une diplomatie assidue. Sa reine sentit croître le respect qu'il lui inspirait en voyant les réactions de ceux qu'il croisait. Nul ne se rembrunissait à son approche, ni le regardait d'un air hautain, comme souvent dans ce milieu. On l'appréciait, alors qu'il n'avait rien d'un bout en train. Sa popularité venait non pas de son aptitude à distraire, mais de sa franchise. Il s'exprimait toujours avec une politesse, une prévenance et une honnêteté sans faille. Son exotisme lui permettait de dire ce que d'aucuns devaient garder pour eux. Enfin, ils atteignirent une pièce au sommet d'une volée de marches. « Nous y voilà !» se réjouit le jeune Jindoé. La porte franchie, tous deux découvrirent un orchestre, plus réduit mais plus doué, qui jouait sur des instruments à cordes. Le décor, ici, semblait moins tapageur, mais la nourriture qui circulait sur les plateaux des serviteurs plus exotique encore. Sa reine reconnut de nombreux visages familiers de la cour, y compris le plus important. « Le roi !» dit-elle en avisant Yadon dans un des angles opposés, flanqué d'échelles dans une robe verte légère. Shuden acquiesça. Même organisé par Messire Tellery, il ne manquerait une telle fête pour rien au monde. Ils ne s'entendent pas? Ils se supportent, mais ils exercent le même métier. Yadon possède une flotte marchande et ses navires parcourent la mer du Fjorden, comme ceux du duc. Je trouve bizarre de le voir ici néanmoins. Mon père se tient à l'écart de ce type d'événement. Votre père est adulte, madame. Yadon ne s'est pas encore débarrassé de son engouement pour le pouvoir, et il use de la moindre occasion pour l'apprécier. Il regarda alentour d'un œil attentif.
Prenez cette pièce, par exemple.
Cette pièce ?
Oui, quand il assiste à une réception, il choisit une pièce écartée et laisse les gens importants le rejoindre.
Les nobles ont l'habitude.
L'organisateur embauche un second orchestre et ouvre un autre bal plus fermé. Le roi déteste fréquenter des gens d'un rang trop inférieur au sien. Cette assemblée est réservée au duc et à des comtes bien en vue.
Mais vous n'êtes que baron,
releva Saren, tandis qu'il s'avançait d'un pas lent dans l'assistance. Chudaine but une gorgée de vin et sourit. Je suis un cas à part. Ma famille a forcé Yadon à nous octroyer notre titre, là où la plupart des autres ont obtenu le leur par l'argent et les flatteries. Je peux me permettre plus de liberté qu'un autre baron, car le roi et moi savons tous deux qu'un jour, j'ai pris le meilleur sur lui. Je peux en général passer quelque temps dans son cercle, une heure au mieux. M'attarder davantage mettrait sa patience à l'épreuve. Ce soir, bien entendu, c'est une autre histoire.
Pourquoi donc ?
Je vous ai. N'oubliez pas, madame, à la seule exclusion du couple royal, chacun vous cède en matière de rang ici.
Saren hocha la tête.
Même si, en tant que fille de roi, elle avait coutume d'être tenue pour importante, la primauté de l'étiquette chez les Arellois la prenait encore au dépourvu.
« La présence de Yadon change tout »,
murmura-t-elle au moment où le souverain l'apercevait. Il considéra sa robe, prit visiblement note de sa couleur et se rembrunit.
« Ce n'était peut-être pas le bon choix »,
reconnut-elle en son fort intérieur. Toutefois, son attention trouva aussitôt un autre objet.
« Qu'est-ce qu'il fabrique ici, lui ? »
souffla-t-elle en avisant une silhouette flamboyante qui se détachait du reste des participants telle une cicatrice écarlate. Chudaine suivit son regard.
« Le Gjorn ! Il a commencé à fréquenter les bals de la cour dès son arrivée. Il est venu au premier sans autre forme de procès et avec un tel aplomb que personne n'a osé oublier de l'inclure dans sa liste d'invités depuis lors. »
Ratten devisait avec un petit groupe d'hommes. Le rouge vif de sa cape et de son plastron de cuirasse tranchait sur les nuances plus subtiles de leurs vêtements. Le Gjorn dominait d'une bonne tête tous les nobles présents, et ses épaulières dépassaient de part et d'autre d'au moins 30 centimètres. Il aurait été difficile de le manquer. Le jeune noble sourit.
« Quoi que je puisse penser de lui, son assurance m'impressionne. Le premier soir, il a déboulé dans la réception privée du souverain et pris langue avec l'un des ducs. À peine s'il a salué Yadon de la tête. Il se considère de toute évidence comme l'égal de n'importe qui en tant que Gjorn.
Les rois s'inclinent face aux Gjorn dans l'Est, et quand le Vyrn leur rend visite, c'est tout juste s'il ne rampe pas.
Et tout cela vient d'un vieux Jindoé,
nota Chudaine en remplaçant leur coupe auprès d'un serviteur de passage. Le vin ici était d'un bien meilleur cru.
Voir ce que vous avez fait des enseignements de Keseg ne laisse pas de me fasciner.
Vous ? Releva sa reine. Je suis Korati.
Merci de ne pas m'assimiler au Gjorn.
Veuillez m'excuser, dit-il avec un geste d'apaisement. Je ne voulais pas vous offenser. La princesse marqua une pause. Il parlait à Onik comme un autochtone et vivait en Arellon. Aussi en avait-elle déduit qu'il était Korati. Elle s'était trompée. Le jeune noble restait Jindoé. Sa famille devait suivre le Shu Keseg, la racine du Shu Korat et du Shu Deret. Elle poursuivit sa réflexion à haute voix.
Mais le Jindo est Dereti maintenant.
Chudaine, qui observait le Gjorn, fronça les sourcils.
Je me demande ce que le maître a songé lorsque ses deux étudiants, Korat et Deret, sont partis prêcher dans les pays du Nord. Il enseignait l'unité, mais que voulait-il dire par là ?
L'unité par l'esprit, comme mon peuple le pense ? L'unité par l'amour, comme vos prêtres l'affirment ? Ou l'unité par l'obéissance, comme le croient les Deretis ?
Je me demande comment le genre humain a pu compliquer un concept aussi simple.
Il secoua la tête.
En tout cas, oui, madame. Le Jindo est Dereti désormais. Mes concitoyens laissent le Vyrn croire que le pays s'est converti, parce que cela vaut mieux que de se battre. Mais depuis peu, beaucoup mettent cette attitude en doute. Les Artêtes se montrent de plus en plus exigeants.
Je ne peux qu'être d'accord. Il faut arrêter l'expansion du Chudéret. Il pervertit la vérité.
Ce n'est pas ce que j'ai dit, Dame Saren.
Le cœur du Shukezeg réside dans l'acceptation. Il y a de la place pour tous les enseignements. Les Déretis se croient dans leur bon droit. » Il s'interrompit pour toiser Athènes. Celui-ci, par contre, constitue un danger.
« Pourquoi lui et non pas ses semblables ?»«
J'ai assisté à l'un de ses sermons. Il ne prêche pas avec son cœur, madame. Il prêche avec sa tête. Ce qui lui importe, c'est le nombre de conversions, et non la foi des convertis. Et c'est dangereux. »
Shuden passa en revue les compagnons du Bjorn.
« Celui-là aussi m'inquiète, » ajouta-t-il en désignant un jeune homme aux cheveux si blonds qu'il paraissait blanc.
« De qui s'agit-il ? » demanda sa reine, intriguée.
« De Varen, le fils aîné du baron Diolène. Il ne devrait pas être dans cette pièce, mais sa proximité avec le Gjorn doit lui servir de passe-droit. Il apparaissait comme un Khorati des plus sincères et il prétend avoir reçu une vision de Jadette qui lui enjoignait d'embrasser le Shuderet.
Ces dames en parlaient. Vous ne le croyez pas ?
Sa piété m'a toujours semblé une façade opportune. Sa dévotion lui a valu beaucoup de notoriété.
Soucieuse, elle étudia l'homme aux cheveux blancs. Il lui parut accompli et posé, malgré son jeune âge. Sa conversion était un mauvais présage. Plus le Gjorn rassemblerait de tels individus, plus il deviendrait difficile à arrêter. « Je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps, » dit-elle.
« Comment cela ?»«
De fréquenter ces bals. Rathen a une semaine d'avance sur moi. »
« On jurerait que vous en faites une affaire personnelle, » dit-il avec un sourire.
Sa reine refusa de prendre le commentaire à la légère. « Une affaire personnelle susceptible de décider du destin de pays entiers. »
« Shuden !» lança une voix familière. « Je constate que votre cercle habituel d'admiratrices vous fait défaut. »«
Bien le bonsoir, messire royal. »
Le jeune Jindoé s'inclina face au vieil homme qui approchait.
« Oui, grâce à ma compagne, j'ai pu éviter le pire ce soir. »«
Non, l'adorable princesse Sarène !» dit le duc en baisant la main de la jeune femme. « Il semble que votre penchant pour le noir se soit étiolé. »
« Il était médiocre, messire, » dit-elle avec une révérence.
« J'imagine. »
Il sourit avant de se retourner vers Shuden.
« J'espérais que vous ne vous aviseriez pas de votre bonne fortune, mon ami. J'aurais pu vous voler la princesse et me préserver ainsi de quelques-unes de ses sangsues. »
Sa reine le dévisagea, surprise.
Messire royal est encore plus recherché que moi parmi les célibataires d'Arelon,
expliqua Shuden d'un air narquois.
Non que je sois jaloux, car il m'épargne certaines attentions.
Vous ? La princesse contempla le frêle vieillard. Les femmes veulent vous épouser, vous ? Soudain, ses manières lui revinrent, et elle ajouta un messire un peu tardif, tout en rougissant du caractère déplacé de sa question.
« Ne craignez pas de m'offenser, jeune dame, » s'esclaffa-t-il. « Aucun homme de mon âge ne vaut le coup d'œil. Mais ma chère Eoldès est morte depuis 20 ans. Je n'ai pas de fils. Il me faudra transmettre ma fortune. Chaque fille célibataire du royaume s'en rend compte. Il lui suffira de me supporter quelques années, de m'enterrer et de dénicher un jeune amant vigoureux pour l'aider à dépenser mon argent. »
« Monsieur le duc est trop cynique, » dit Shuden.
« Monsieur le duc est trop réaliste, » ronchonna Royal. « Mais j'avoue que je suis tentée d'attirer une de ces donzelles dans mon lit. Elle me croit toute trop croulant pour effectuer mes devoirs matrimoniaux, pourtant elle se trompe. Quitte à me dépouiller, la chère élue devra le mériter. »
Le jeune Jindoé rougit, mais sa reine éclata de rire.
« Je le savais, vous n'êtes qu'un vieux libidineux. Et je l'admets volontiers. »
Le duc sourit, puis il regarda Rathen.
« Et que fait notre ami trop caparaçonné ?»«
Il m'agace par sa simple présence, » répondit la princesse.
« Prenez garde au personnage, sa reine, » dit Royal. « J'ai ouï dire que la bonne fortune de ce cher messire Tellery n'est pas due qu'à la chance. »
Shuden plissa les yeux.
« Il n'a pas déclaré allégeance aux Déretis. »
« Ouvertement, mais selon mes sources, ces deux-là nous mijotent quelque chose. » Une chose est sûre, Caë n'a jamais connu de fête comparable. Le duc l'organise sans motif clair.
On doit se demander ce qu'il veut afficher et pourquoi il tient à ce qu'on connaisse l'étendue de sa richesse.
« Une question intéressante, messire, » dit la jeune femme.
« Saren !»
Eshen l'appelait de l'autre côté de la pièce.
« Ma chère, auriez-vous la gentillesse de nous rejoindre ?»«
Oh non !» Elle regarda la reine qui l'invitait du geste à approcher.
« Qu'est-ce qui se passe à votre avis ?»«
J'ai hâte de le savoir !»
dit Royal, les yeux brillants. La princesse hocha la tête à l'adresse d'Eshen, s'avança face au couple royal et fit la révérence. Ses deux compagnons la suivirent plus discrètement et se placèrent à portée de voix. Eshen eut un sourire enthousiaste à l'arrivée de sa bru.
« Ma chère, je faisais part à mon époux de l'idée qui nous est venue ce matin. Vous savez, nos exercices physiques !»«
Qu'est-ce que c'est que cette absurdité, sa reine ?»
lança le souverain.
« Des femmes, jouer avec des épées !»«
Sa majesté ne veut pas nous voir grossir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, innocemment.
« Non, bien sûr que non. Vous pourriez vous contenter de manger moins. »
Mais j'adore me dépenser, votre majesté. »
Yadon prit une inspiration chagrine.
« Il doit bien y avoir un autre exercice que vous, les femmes, pourriez choisir. »
Elle scia, comme au bord des larmes.
« Votre majesté, je le pratique depuis la prime enfance. Le roi n'aura sans doute rien contre un passe-temps féminin sans conséquence. »
Il la dévisagea sans répondre. Avait-elle exagéré ? Elle prit son meilleur air de stupidité crasse et sourit. Enfin, il secoua la tête.
« Bah, faites ce qu'il vous plaira, femme. Je refuse que vous me gâchiez ma soirée. »
« Le roi est sage, » dit sa reine, qui fit la révérence et recula. « J'avais oublié ce détail, » lui murmura Shuden quand elle le rejoignit. « Le rôle doit être pénible à jouer. »
« Il m'est fort utile, parfois. »
Ils allaient se retirer quand la princesse avisa un messager se dirigeant vers le souverain. Elle posa la main sur le bras du jeune Jindoé pour lui indiquer qu'elle souhaitait rester là, où elle pouvait encore entendre Yadon. Le courrier murmura à l'oreille du roi, qui écarquilla les yeux, frustré.
« Quoi ?»
L'autre s'avança de nouveau, se pencha sur lui, et Yadon le repoussa.
« Plus fort ! Je ne supporte pas les mespaces !»«
C'est arrivé cette semaine, votre majesté. »
Sa reine se rapprocha imperceptiblement.
« Curieux, » dit un homme avec un léger accent. Le Gjorn se tenait non loin d'eux. Sans regarder qui que ce soit, il projetait sa voix vers le souverain, comme s'il espérait être entendu par inadvertance.
« Je n'aurais jamais imaginé que le roi discuterait de sujets importants à portée d'oreille de quelqu'un de simplet. « Un tel individu risque la confusion au point qu'il serait malséant de le placer dans pareille situation. »
La plupart de ceux qui entouraient la princesse ne parurent pas entendre ce commentaire. Mais il n'avait pas échappé au souverain, qui considéra sa reine, prit son messager par le bras et quitta la pièce d'un bon pas, plantant là une Eshen ébahie. Tandis que la jeune femme regardait le roi sortir, Raten capta son attention, lui adressa un petit sourire et se retourna vers ses compagnons.
« Quel culot !» fulmina la princesse. « Il l'a fait exprès !»
Shuden hocha la tête.
« Souvent, madame, la supercherie dessert son auteur. »«
Le Gjorn est doué !» dit Royal. « C'est un coup de maître que d'utiliser l'artifice d'un autre à son propre avantage. »«
Mieux vaut rester fidèle à soi-même, je trouve. » Plus on montre de visages différents, plus on se complique la vie.
Le vieux duc acquiesça en souriant.
Exact. Fade, certes, mais exact.
Sa reine écoutait à peine. La manipulation qu'elle avait cru opérer possédait un défaut qu'elle avait négligé. Ma façade pose problème, convint-elle. Puis elle soupira et se retourna vers le jeune Jindoé.
Mais je suis coincée, du moins avec Yadon. En toute franchise, de quelque manière que je me sois comportée, je doute qu'il m'aurait considérée autrement.
Vous avez sans doute raison. Le roi est plutôt myope en ce qui concerne la gent féminine.
Yadon revint quelques instants plus tard, le visage sombre. De toute évidence, la nouvelle qu'il avait reçue l'avait fâché. Le messager prit la fuite, l'air soulagé. Alors qu'il quittait la pièce, sa reine avisa un nouvel arrivant.
Le duc Tellery arborait sa pomposité coutumière. Des habits rouges et or, des doigts chargés de bagues. La princesse le surveilla de près, mais il ne rejoignit pas et ne salua même pas le prêtre. En fait, il paraissait prendre soin de l'éviter pour se comporter en hôte parfait, allant d'un groupe d'invités à l'autre.
« Vous avez raison, messire royal, » dit-elle enfin.
Le vieil homme, qui devisait avec Chudaine, releva la tête.
« Oui ?»«
À propos du duc Tellery. » Elle pointa le menton dans sa direction. « Il y a bien quelque chose entre lui et le Gjorn. »
« Cet homme est une énigme. Je n'ai jamais pu saisir ses motivations. En général, il semble ne vouloir rien de plus que des pièces d'or pour remplir ses coffres, mais parfois... »
Il laissa sa phrase en suspens. Tellery, comme s'il avait pris conscience de leur examen, s'était tourné vers leur groupe. Il sourit et s'avança, flanqué d'Atara.
« Messire royal !»
dit-il d'un ton léger, presque indifférent.
« Bienvenue et bonsoir, votre Altesse. Je ne crois pas que nous ayons eu l'heure d'être présentés dans les formes. »
Royal s'en chargea. Sa reine fit une révérence pendant que leur hôte sirotait son vin et échangeait des banalités avec le vieux duc.
Il paraissait étrangement débonnaire. Même si la plupart des aristocrates se souciaient peu des sujets qu'ils évoquaient, ils s'efforçaient au moins de donner le change.
Tellery, lui, ne s'en souciait guère. Il se montrait désinvolte, sans aller jusqu'à l'insulte, et détaché. Après son salut initial, il négligea la jeune femme dont il avait dû décider qu'elle ne présentait aucune espèce d'intérêt. Enfin, il s'éloigna d'un pas nonchalant et sa reine le regarda partir avec irritation. Si elle détestait une chose, c'était qu'on l'ignore. Elle se tourna vers son cavalier.
« Messire Chudaine, je veux socialiser. Raten a son avance d'une semaine, mais que Domus soit maudit si je la lui laisse. »
Il était très tard. Le jeune Jindoé aurait voulu partir des heures plus tôt, mais sa reine avait tenu à continuer. Elle avait salué des centaines de personnes, établi des contacts comme une folle. Elle avait demandé à Chudaine de lui présenter toutes ses relations. Les visages et les noms s'étaient bientôt fondus les uns dans les autres. Mais à force, elle les retiendrait. Enfin, satisfaite par la tournure des événements, elle laissa son cavalier la ramener au palais. Une fois à destination, il la salua d'un ton las et se déclara ravi qu'Ahan soit le prochain à l'accompagner au bal.
« Vous êtes délicieuse, mais j'ai du mal à suivre votre rythme. »
Elle-même avait parfois du mal aussi. Elle entra, titubant presque, si saoule de fatigue et de vin qu'elle avait du mal à garder les yeux ouverts tandis qu'elle regagnait sa chambre. Des cris résonnèrent dans le couloir. Sa reine fronça les sourcils, tourna un coin et découvrit la garde royale en émoi. Les hommes couraient en tous sens et se hélaient à pleine gorge, plus importuns qu'efficaces. Elle se redressa de toute sa hauteur.
« Que se passe-t-il ? »
« Quelqu'un s'est introduit dans le palais, » lui expliqua un garde, « jusque dans la chambre du roi. »«
Il n'y a pas de blessés ?»
s'enquit-elle, anxieuse. Yadon et Eshen avaient quitté la réception bien avant Chudaine et elle.
« Domu merci, non !»
Il se tourna vers deux autres soldats.
« Conduisez la princesse dans sa chambre et montez la garde devant sa porte !»
leur ordonna-t-il.
« Bonne nuit, votre Altesse. Ne vous inquiétez pas, les intrus sont repartis. »
Elle soupira. Vu la surexcitation des gardes, leurs cris, les cliquetis de leurs armures et leurs armes tandis qu'ils filaient par les couloirs, elle doutait de trouver le sommeil dans un tel charivari, aussi épuisée soit-elle.